Bonjour, au micro Idrissa Sidoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, les autorités ont annoncé l'interdiction des manifestations prévues ce jeudi par de jeunes opposants contre la candidature en troisième mandat du président Alassane Ouattara. L'interdiction a été annoncée dans un communiqué du ministre de l'administration du territoire, Sidiki Diakité, lu à la télévision publique. La veille, des incidents ont éclaté à Daoukro, fief de l'ex-président Henri Konan-Bédié, entre ses partisans et des jeunes du parti au pouvoir, faisant plusieurs blessés, a-t-on appris mercredi. Nous y reviendrons dans un instant avec Michel Joseph. A signalé toujours en Côte d'Ivoire que des milliers de fans, surnommés les Chinois, ont commémoré mercredi à Abidjan le premier anniversaire de la mort de leur idole, le chanteur ivoirien Didier Arafat, star du coupé décalé, décédé accidentellement à 33 ans le 12 août 2019. En Guinée équatoriale, trois militaires, dont un officier, vont être jugés pour viol sur trois mineurs âgés entre 13 et 15 ans, a annoncé le gouvernement. Et Théodorin Nguema Obiang Mangé, vice-président et fils du président Théodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 41 ans, a affirmé mercredi la fin de l'impunité, soutenant que la Guinée équatoriale est un état de droit. À noter que les organisations de défense des droits de l'homme et de lutte contre la corruption ont souvent dénoncé l'impunité dont bénéficient certains dirigeants de ce pays. En Algérie, le président Abdelmajid Tebboune a mis en garde mercredi contre une contre-révolution visant à déstabiliser l'Algérie après avoir limogé des cadres administratifs locaux accusés d'incurie dans la mise en œuvre des décisions gouvernementales. Il y a des blocages volontaires et des enquêtes sont en cours sur les responsables, a averti M. Tebboune dans un discours prononcé devant les préfets du pays. Toujours en Algérie, les avocats et soutiens de Khaled Drareni, devenu un symbole du combat pour la liberté de la presse dans ce pays, ont lancé mercredi un appel à la mobilisation internationale pour obtenir la libération du journaliste condamné lundi à 3 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale. Notre confrère était poursuivi à la suite de sa couverture le 7 mars à Alger d'une manifestation du Hirak. Plusieurs journalistes algériens sont en prison et des procès sont en cours. Covid-19, le gouvernement de l'État brésilien du Paraná a signé mercredi un protocole d'accord avec la Russie pour essayer et produire son nouveau vaccin Sputnik V, dont l'efficacité est sujette à caution. L'Argentine et le Mexique vont prendre en charge de leur côté la production et la distribution en Amérique latine, sauf au Brésil, du futur vaccin élaboré conjointement par le laboratoire AstraZeneca et l'Université d'Oxford. L'OMS, quant à elle, s'est dite impatiente d'analyser les essais cliniques de Sputnik V. Le Pérou a annoncé mercredi le retour du couvre-feu dominical et a interdit les rassemblements familiaux devenus la principale source de contagion dont le nombre quotidien de nouveaux cas a atteint un nouveau record. L'Amérique latine et les Caraïbes sont la région du monde la plus touchée avec plus de 225 500 décès pour plus de 5 720 300 cas, selon un bilan de l'AFP. Plus de 20 millions de cas et au moins 745 783 morts ont été officiellement recensés dans le monde depuis fin décembre. Les États-Unis, plus de 5 millions de cas, sont le pays le plus endeuillé avec plus de 166 000 décès devant le Brésil, le Mexique, le Royaume-Uni et l'Inde. La suite de nos informations. En Côte d'Ivoire, des incidents ont éclaté à Daoukro, fief de l'ex-président Henri Konan-Bédié,
entre ses partisans et des jeunes du parti au pouvoir, faisant plusieurs blessés. Le point avec Michel Joseph.
Des manifestations sont prévues ce jeudi par des jeunes contre la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara, dénonçant une forfaiture de trop. Des affrontements ont paralysé la ville de Daokro, d'après Adama Kolia Traoré, président du conseil régional du Ifou, précisant que la police a été vite débordée. Selon un habitant, la manifestation a tourné en affrontement ethnique entre Baoulé et Diola. À Ferkessédougou, fief de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, en exil, la police a dispersé une manifestation de jeunes. Les femmes du RHPD au pouvoir ont demandé mercredi au gouvernement d'interdire toutes les manifestations pour éviter la violence et le désordre. Le président Alassane Ouattara, 78 ans, a annoncé qu'il allait se présenter pour un troisième mandat à la présidentielle du 31 octobre. L'opposition lui conteste ce droit. L'ex-président Henri Colombédier, 86 ans, est lui-même candidat désigné du PDCI, la principale formation d'opposition.
Au Mozambique, des djihadistes se sont emparés mercredi du port gazier de Mocibwa de Praia, dans le nord du pays. Cette information, confirmée par une source militaire, fait suite à une série de récentes attaques dans cette région. Le point avec Abdulrahman Diab.
Selon le site d'information Mos 24 Horas, le port de Mocibwa de Praia a été pris par des terroristes à l'aube hier mercredi. Utilisant un lance-roquettes, les djihadistes ont touché un bateau dans le port, selon la source militaire qui parle de situation compliquée. Mocibwa de Praia est situé dans la province de Cabo Delgado, qui abrite d'importantes installations de gaz naturel liquéfié, l'un des plus gros investissements en Afrique auquel participe le groupe français Total. Fin juin, des hommes armés avaient tué 8 ouvriers d'une entreprise privée de travaux publics au service de Total sur son projet gazier de plusieurs milliards de dollars. Au même moment, des djihadistes avaient déjà attaqué et occupé temporairement le port. Une précédente occupation de la ville quelques mois auparavant avait provoqué un exode massif des habitants. Le nord du Mozambique est le théâtre depuis 2017 d'une insurrection djihadiste qui a fait un millier de morts et entravé le développement de l'exploitation de ses réserves de gaz offshore.
Ici aux États-Unis, le candidat démocrate présumé à la présidentielle du 3 novembre, Joe Biden, a présenté hier, mercredi, sa colistière Kamala Harris, la décrivant comme la bonne personne pour l'aider à reconstruire le pays. S'ils remportent ensemble la présidentielle en novembre, le point avec Yacouba Ouédraogo.
J'avais le choix, mais je n'ai aucun doute que j'ai choisi la bonne personne pour cette élection, a déclaré Joe Biden à l'occasion de leur première apparition ensemble à Wilmington, dans le Delaware. Il a aussi salué toutes les femmes qui n'ont pas été retenues.
Au cours des dernières semaines, j'ai eu le privilège incroyable de rencontrer et de passer beaucoup de temps avec un groupe de femmes leaders talentueuses, toutes qualifiées pour être présidentes. J'ai beaucoup appris de chacune d'entre elles. Plus je leur parlais, plus j'étais impressionné, même si je les connaissais auparavant. Je remercie chacune d'entre elles d'avoir participé à ce processus. J'ai hâte de travailler avec elles dans la reconstruction de ce pays, une fois élu, si Dieu le veut.
M. Biden a indiqué que Kamala Harris, 55 ans, va servir de source d'inspiration à une nouvelle génération. Elle a ensuite pris la parole pour souligner l'importance du vote du 3 novembre prochain.
La mauvaise gestion de la pandémie par le président Trump nous a plongés dans la pire crise économique depuis la Grande Dépression. Et nous vivons un coup moral avec le racisme et l'injustice systémique qui ont créé une nouvelle coalition de conscience dans les rues de notre pays pour exiger un changement. L'Amérique réclame le leadership.
America is crying out for leadership.
Née d'une mère indienne et d'un père jamaïcain, Kamala Harris est devenue la première femme noire colistière d'un candidat à la présidence aux États-Unis. Avec elle, Joe Biden fera face au duo Trump-Pence à la présidentielle de novembre dont la campagne se tient dans des conditions particulières à cause du coronavirus.
La Minute Écho, John Lydon.
En République démocratique du Congo, le millionnaire belge Georges Forrest, actionnaire majoritaire de la plus ancienne banque privée, a vendu ses parts à la firme kenyane Equity Group Holdings. Equity Group a annoncé la finalisation de l'acquisition de 66,53% d'actions de la Banque commerciale du Congo pour un montant total de 95 millions de dollars. L'Empire Forrest opère en RDC depuis 1922, principalement dans les mines. Georges Forrest, 79 ans, est l'une des plus grandes fortunes d'Afrique francophone. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique du Burkina Faso a obtenu 27 500 milliards de francs CFA à l'issue de son émission par adjudication d'obligations assimilables du Trésor à 3 ans sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Pour le mois d'août 2020, les intentions d'émission des titres publics se chiffrent à 50 milliards de francs CFA. Le Ghana, deuxième producteur mondial de cacao, s'attend à une augmentation de la production de cacao à environ 900 000 tonnes, une hausse de 5,8%. Sa saison de croissance s'étend d'octobre à septembre. L'organe en charge de la gestion du cacao prévoyait d'élever 1,3 milliard de dollars de prêts syndiqués pour financer les achats de cacao en 2020-2021 auprès d'un consortium de banques et d'institutions financières avec le gouvernement comme garant.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le comité d'urgence du comité exécutif de la Fédération ivoirienne du football a suspendu le processus électoral en cours pour la validation des candidatures à la présidence de l'instance dirigeante du football ivoirien. Le communiqué de la FIFA justifie cette suspension par, je cite, « de graves manquements constatés dans la conduite du processus électoral ». D'après le communiqué, le président de la fédération, Sidi Diallo, a saisi par courrier le 10 août la FIFA et la CAF pour les informer de sa volonté de suspendre le processus électoral et de convoquer une assemblée générale en session extraordinaire pour examiner les dispositions à prendre pour la poursuite des opérations électorales. Cet AG extraordinaire est prévu se tenir le 29 août à Abidjan. L'ordre du jour concernera le rapport du comité exécutif sur la décision de suspension du processus électoral, la recomposition de la commission électorale et la poursuite des opérations électorales. Et puis, l'attaquant du tout-puissant Mazembe, Jackson Muleka, prend finalement la direction de la Belgique où il a signé au Standard de Liège alors qu'il était annoncé en France à Lille ou à Lens, ou encore en Égypte avec le Zamalek. Le meilleur buteur de la Ligue des champions de la CAF avec 7 réalisations et co-meilleur buteur du championnat de la RDC, 12 buts, va évoluer sous les couleurs du Standard de Liège. Le montant du transfert du jeune attaquant de 20 ans n'a pas été révélé, encore moins la durée de son contrat avec le club belge. Mais une chose est sûre, tout s'est déroulé dans les règles de l'art. Jackson Muleka.
Le président qui est mon papa, je lui ai demandé si je pouvais partir, tenter la chance ailleurs. Il m'a dit tu le pouvais si le club venait dans le normal, c'est ce qui est arrivé. Le Standard est venu vers le club et ils ont négocié pour trouver un accord. Moi, je le fais, j'ai demandé au club, ce n'est pas le club qui m'a forcé à partir, c'est d'aider mon avis, vu ce que je fais au club, malgré les différentes éliminations, pas de coupe, j'ai dit que peut-être c'était le moment d'aller tenter ailleurs.
Jackson Muleika, nouvel attaquant du Standard de Liège. Et pour finir, 25 ans après sa dernière demi-finale, le Camerounais Éric-Maxime Choupo-Moting a envoyé le PSG dans le dernier carré d'as de la Ligue des Champions. Entré en fin de rencontre, le Lion indomptable a inscrit le but qualificatif de son club à la 93e minute, 2-1 au score final, permettant à Paris de retrouver les demi-finales de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 1995. Cette victoire rend les Parisiens doublement heureux car ils fêtaient aussi les 50 ans d'existence de leur club, créé le 12 août 1970. Le deuxième quart de finale opposera ce soir les Allemands de Leipzig à l'Atlético Madrid du Ghanéen Thomas Partey.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. « Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sidoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les autorités de Goma ont lancé des contrôles pour exiger le port obligatoire du masque contre le coronavirus. Le Nord Kivu est la deuxième province la plus touchée après Kinshasa, qui a enregistré 470 cas. Les contrevenants sont gardés dans un stade toute la journée avant d'être relâchés le soir. Le point avec notre correspondant à Goma, Charlie Kasereka.
Désormais à Goma, le port des masques et des protections contre le coronavirus est devenu obligatoire pour tous. Ce matin, un dispositif policier a été bien visible sur les routes pour vérifier ceux qui n'ont pas de masques dans les bus de transport en commun comme dans les véhicules privés. Les chefs de la police lui-même sur terrain essaient de prodiguer des conseils à ceux qui viennent d'être interpellés. Jean-Dédier Bahati et Jaron Sengi, tous dégardés par la police au stade des volcans de Goma.
Je sortais de chez moi pour le boulot. Malheureusement, je ne portais pas correctement le cache-nez. C'est comme ça que la police m'a interpellé. Elle nous dit que nous serons gardés ici jusqu'au soir. Mais c'est vraiment difficile si on nous accordait le pardon seulement pour vous.
Je suis là aussi parce que je n'ai pas bien porté le masque sur la bouche. Il était au cou. Je me dirigeais au boulot. Malheureusement, ma journée vient d'être gâchée.
Ils sont gardés toute la journée dans ces stades et sont libérés vers la fin de la journée à 18h. Edgar Maungu, enseignant et chercheur à l'université, pense que c'est le moment de passer à la vitesse supérieure vu les relâchements observés dans les habitudes des habitants des Goma.
Je salue cette mesure de contraindre les gens à l'appliquer de ces mesures barrières. Et j'invite à ce que soit maintenu cet élan de contrôle et de suivi pour que les gens ne puissent pas relâcher. Nous sommes la deuxième province après la ville province de Kinshasa à enregistrer des centaines de cas au Covid-19.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ayant levé l'état d'urgence, le gouvernement du Nord Kivu veut intensifier la sensibilisation sur les mesures de protection contre les coronavirus. David Kamoura est ministre provincial des Finances et Mines.
Effectivement, nous avons constaté que les gens ont fait la confusion entre la levée de l'état d'urgence sanitaire et la fin de la maladie. Mais la maladie est toujours là et d'ailleurs a pris beaucoup d'ampleur dans notre province. Désormais, ne pourra être admis à la circulation que la personne qui va avoir son masque est bien le porter.
Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
La Russie a annoncé mardi avoir développé le premier vaccin contre le coronavirus, baptisé Sputnik V, V comme vaccin. L'Organisation mondiale de la santé a réagi en appelant à la prudence, rappelant que la préqualification et l'homologation d'un vaccin passaient par des procédures rigoureuses. La phase 1 de l'homologation d'un vaccin est dédiée à sa tolérance et aux effets indésirables. La phase 2 permet de déterminer le dosage pour améliorer son efficacité. Le vaccin russe est seulement entré hier dans la phase 3 d'homologation, c'est-à-dire un essai en situation réelle. Pour mieux comprendre l'importance de l'homologation, Claire Morin-Gibourg a joint à Paris la professeure de l'École des hautes études en santé publique, Marie-Aline Blanc.
Alors, la phase 3 ou les phases 3 permettent d'établir deux choses. L'efficacité, c'est-à-dire de démontrer que le vaccin protège contre la maladie. Et donc, en général, une phase 3, ça prend un certain temps. C'est d'un point de vue statistique, on élabore le nombre de personnes qu'il va falloir inclure dans cette étude. Mais l'autre rôle de ces phases 3, c'est de tester la tolérance de ce vaccin à grande échelle. Ce qui peut se passer, c'est que le vaccin, par exemple, puisse donner des effets secondaires très importants, par exemple sur une personne pour 100, 1 pour 100 ou 1 pour 1000. Et donc ça veut dire qu'on va devoir faire cet essai sur un nombre important de personnes et qu'il va falloir suivre ces personnes pour s'assurer que s'il y a un problème, elles soient bien suivies au niveau médical.
Est-ce que ces phases d'homologation sont les mêmes partout dans le monde?
Alors, de manière globale, on passe toujours par des phases 1, phase 2, phase 3, oui, dans le monde entier. Après, selon les pays, on a des autorités de santé. Par exemple, aux États-Unis, vous avez la FDA, hein, qui a sa réglementation. En Europe, maintenant, on a une agence européenne hein, qui a un peu essayé d'harmoniser les choses entre les pays européens. Mais il peut y avoir des petites différences entre ces agences, hein, certaines pouvant être plus exigeantes que d'autres. Et puis après, on a tous les autres pays du monde qui ont aussi leurs agences en Asie, etc.
Avez-vous été surprise de l'annonce russe de ce vaccin qu'ils disent efficace alors que la phase 3 a juste démarré hier?
Alors, la question c'est quand ils disent efficace, ça veut dire quoi hein, ça veut dire que les personnes qui ont été dans les premières phases de test ont pu être infectées, ils ont pu regarder a posteriori si ces personnes, dans ceux qui avaient reçu le vaccin, étaient mieux protégées que d'autres, donc ça peut être une indication. Mais en tout cas, les noms ne sont certainement pas suffisants pour pouvoir dire si c'est efficace et quel est le degré d'efficacité. Puis il y a surtout la question de la tolérance. Là, on ne sait pas si ce vaccin est bien toléré. Il faut savoir, bon, moi j'ai développé pendant 20 ans des vaccins, qu'aujourd'hui on ne connaît pas encore très bien cette maladie et le rôle des composants en fait, de ce virus qui peuvent induire par leur composition certains effets. Il peut y avoir aussi induction de ce qu'on appelle des anticorps facilitants. C'est-à-dire qu'au lieu de bloquer le virus, au contraire, vont permettre le virus de rentrer qui pourrait exister chez certaines personnes. Enfin, il y a plein de possibilités qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire... Donc j'étais effectivement surprise, comme beaucoup de gens, j'imagine, par ces annonces. Et surtout de dire qu'au 1er janvier, on aurait un vaccin qui pourrait être disponible.
Jointe à Paris, Marie-Aline Bloch, professeure de l'École des hautes études en santé publique.
Avec vous, cette semaine dans Washington Forum, le débat sur le troisième mandat, plus que jamais d'actualité. Après des jours d'attente, les Ivoiriens sont finalement édifiés. Le président Alassane Ouattara sera bel et bien candidat à la présidentielle d'octobre. Son homologue guinéen, Alpha Condé, lui, dit avoir pris acte de son investiture à la présidentielle par son parti et pourrait lui aussi se prononcer incessamment. Pourquoi le débat sur le troisième mandat continue-t-il de se poser en Afrique? Qu'est-ce qui explique la longévité au pouvoir? Faut-il se défaire de la limitation des mandats? Rendez-vous jeudi 13 août à 19h temps universel sur voafrique.com.
Les fermiers blancs du Zimbabwe, dont les terres ont été redistribuées à l'époque de Robert Mugabe, ont positivement accueilli un plan de compensation gouvernementale de près de 3,5 milliards de dollars. Le président Emmerson Mnangagwa espère que cet accord encouragera les investissements étrangers. Mais comme le rapporte d'Harare, Columbus Mavunga, des questions demeurent sur la manière dont le gouvernement va lever les fonds. Reportage repris ici par Arzuma Compaoré.
Des milliers de fermes ont été reprises à l'époque de Robert Mugabe, principalement des fermiers blancs, et redistribuées aux fermiers noirs. L'accord de réparation de juillet concerne les propriétés saisies sur le terrain et non le terrain lui-même et s'élève à 3,5 milliards de dollars. Même si le Zimbabwe n'a pas les fonds nécessaires, l'association Zimbabwe Commercial Union Farmers est pleine d'espoir. Ben Gilpin est le directeur de la Zimbabwe Commercial Farmers Union. Étant donné que l'âge moyen des agriculteurs lorsqu'ils ont perdu leur propriété était de 55 ans, et c'est près de 20 ans plus tard, vous pouvez voir que beaucoup ne sont plus en mesure de travailler, donc ils ont épuisé leurs ressources. Et donc la résolution de cette situation sera un soulagement pour eux. Le syndicat a représenté 4 500 fermiers blancs chassés de leurs terres lors des réformes destinées à corriger les saisies des terres à l'époque coloniale. Mais lorsque la terre a été redistribuée, la production agricole a diminué, plongeant l'économie du Zimbabwe dans une chute dont elle ne s'est jamais remise. Les critiques disent que l'accord de 3,5 milliards de dollars, qui a pris des années à se négocier, ne fera qu'augmenter la dette du pays. Takura Zangaza est blogueur. La question n'est pas seulement de savoir si nous nous inscrivons dans le récit du capital mondial ou des néo-marchés libéraux du cadre économique mondial et si nous réengageons le capital privé de cette façon, ce qui est essentiellement ce que le gouvernement dit au reste du monde lorsqu'il dit respecter la propriété privée et s'intéresse moins à la justice sociale et économique. Le Zimbabwe espère que l'accord ramènera les investissements étrangers qui ont fui le pays lorsque les propriétés ont été saisies. Ntuli Nkubé est le ministre des Finances du Zimbabwe. Vous ne pouvez pas vraiment dire que les problèmes des agriculteurs qui sont en suspens depuis 20 ans en montrent que nous n'avons pas de priorité. En fait, c'est l'une des priorités. Il est très important que le problème soit résolu. C'est un problème dans un sens qui a déclenché le genre de sentiment négatif que nous avons reçu de certains partenaires mondiaux. Le ministre des Finances dit que s'ils ne peuvent pas réunir les fonds de réparation à temps, le gouvernement rééchelonnera simplement les paiements. Mais une question persiste. Et si cela se produit, les investisseurs étrangers se sentiront-ils suffisamment confiants dans le gouvernement du Zimbabwe pour revenir?
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, le candidat démocrate Joe Biden a présenté hier mercredi sa colistière Kamala Harris. La désignation de la sénatrice de la Californie mardi a été saluée par les commentateurs comme un choix historique. C'est la première fois qu'une africaine-américaine et asiatique-américaine va être en lice pour devenir la première femme vice-présidente des États-Unis. Le duo Biden-Harris affronte en novembre le président sortant Donald Trump et son vice-président Mike Pence. Écoutez ce qu'en pense Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint chargé des affaires africaines.
Je crois que le moment dans notre histoire est arrivé qu'il y a une femme qui occupe la poste de vice-président et peut-être éventuellement président. Et ça, c'est une très bonne chose. Et elle, je vois qu'elle a une expérience formidable. Elle était élue sénateur, elle était élue procureur général de Californie qui est une responsabilité énorme et elle savait, elle a bien géré le bureau, donc elle est complètement qualifiée pour la poste.
Alors, parmi tous les noms qui circulaient, vous pensez que c'est la personne que le camp Donald Trump craignait le plus?
Je crois que oui, parce qu'elle était vraiment tellement qualifiée. Toutes les autres femmes étaient bien aussi, mais elle était à la hauteur, je crois. Elle était le plus qualifiée. Et je n'ai pas peur de voir cette femme présidente des États-Unis, vraiment.
Oui. Alors, on a vu déjà quelques réactions, hein, avec notamment les républicains qui tentent de la qualifier de radicale de gauche.
Oh, ça, c'est complètement faux. Elle est une femme de centre, à mon avis. Elle est typiquement démocrate, modérée. Par exemple, elle voudrait avoir assurance santé pour tout le monde. C'est pas acceptable qu'il y a des gens qui n'ont pas d'assurance médicale. Vous allez en Europe, tous les gens ont des assurances médicales. C'est pas radical de gauche, ça c'est centriste.
Alors, ces attaques illustrent un peu les difficultés que les républicains auront à s'en prendre à elles.
Exactement. Ils disent des choses ridicules, qu'elle était très à gauche, radicale de gauche, c'est ridicule. Ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas de raison de dire ça. Et aussi, Trump a dit en anglais, elle a dit qu'elle est nasty, c'est-à-dire qu'elle est méchante. Ça, c'est ridicule.
Oui. À votre avis, comment va se passer ces trois derniers mois, d'autant plus qu'il n'y aura véritablement pas de campagne? Comment est-ce que les candidats vont se débrouiller?
Oui, c'est difficile. À cause du virus, ce sera difficile d'avoir des choses en public, n'est-ce pas, avec des milliers de gens. Ils vont faire ça par ordinateur, etc. Aussi à la télévision. Avec la télévision, ils peuvent arriver à toucher des millions de gens, n'est-ce pas?
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, joint ici à Washington par Bagassi Koura. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidounia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA.